Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Point de vue, Boris Chassaigne qui vous accompagne pour cette prochaine demi-heure. Cette semaine, deux grands sujets à l'ordre du jour, le déclin de la francophonie canadienne et la pénurie d'enseignants au Nouveau-Brunswick en inquiète plus d'un. On se rendra au Manitoba rencontrer la sénatrice Raymonde Gagné qui nous parle de la loi C-13 et des modifications anticipées à la loi, donc sur les langues officielles, mais aussi de son rôle de sénatrice.
Lorsqu'on regarde les statistiques par rapport à l'augmentation ou la diminution du poids démographique de la francophonie canadienne, on constate que ça continue de baisser. On demande au gouvernement fédéral d'adopter sans tarder. On voudrait qu'ils adoptent une politique en matière d'immigration francophone qui soit globale, coordonnée, qu'elle soit ambitieuse, mais aussi adaptée aux besoins des communautés.
Et les enseignants du Nouveau-Brunswick estiment qu'on leur fait la vie dure, qu'on leur presse un peu trop de citron. Plusieurs craignent de ne pas être assez nombreux pour assurer la pérennité du système éducatif.
On va perdre plus de 200 enseignants certifiés dans notre système. Je ne sais pas si tu réalises, mais plus de 200 enseignants pour nous au Nord-Ouest, ça représente 43 % à peu près de notre flotte enseignante qui va être partie à la retraite d'ici 10 ans.
Et on vous parle de tout et de rien, mais surtout de notre raison d'être. Bienvenue à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
On prend aujourd'hui le temps de se poser et on se tourne vers les provinces maritimes, en fait, vers le Nouveau-Brunswick, où les enseignants du district scolaire francophone du Nord-Ouest sonnent l'alarme, tout comme leurs confrères et consoeurs de l'ensemble de la province. Les prochaines années seront, de leur avis, critiques pour le district scolaire francophone du Nord-Ouest, où la rareté de main-d'œuvre dans les salles de classe mine le fonctionnement des écoles du Restigouche-Ouest. Plusieurs estiment même que l'avenir du système scolaire au Nouveau-Brunswick est en péril. Le district scolaire francophone du Nord-Ouest publie des chiffres alarmants. Le district estime qu'il perdra plus de 40 % des enseignants actuellement à son emploi au cours de la prochaine décennie. Plus de 200 enseignants seraient sur le point de quitter le district scolaire francophone du Nord-Ouest, alors que la demande, elle, continue de croître. Le Nouveau-Brunswick, qui compte 40 000 habitants de plus qu'en 2017, c'est selon Statistique Canada la plus forte augmentation enregistrée depuis 1976. Le recrutement et la promotion de la profession doivent être mis à l'ordre du jour. Comme dans le secteur de la santé, celui de l'enseignement n'est pas exempt de concurrence. Les écoles se battent pour conserver leur personnel et pour recruter les meilleurs candidats, ce qui n'aide en rien la cause des zones rurales éloignées, là où les conditions de travail sont plus difficiles. Malgré tout, le district scolaire francophone affirme faire tout en son pouvoir pour assurer la qualité de l'enseignement dans toutes ses écoles. Pour parler des défis de l'enseignement dans cette province et dans le district scolaire du Nord-Ouest, notre journaliste Maxime Gauthier a rencontré une foule d'intervenants du secteur, dont le principal intéressé, il se nomme Luc Caron, c'est le directeur général du district scolaire francophone du Nord-Ouest.
La pénurie, on la sent pas nécessairement tout de suite, malgré que oui, on la sent, dans le sens que notre banque d'enseignants certifiés est vraiment, vraiment mince. On est quand même chanceux dans notre région présentement. Tous les postes d'enseignants titulaires sont occupés par des gens qui sont certifiés. Mais je t'avoue que notre liste de suppléants est très, très mince. C'est là que le bon blesse un petit peu.
Un défi récurrent dont la plupart des écoles doivent relever aujourd'hui en lien avec cette pénurie est le manque de personnel enseignant breveté pour combler, entre autres, un congé de maladie. On écoute à ce sujet la directrice de l'école Marie-Gaétane à Kedgwick, Mme Hélène Savoie-Chouinard.
C'est sûr que dans nos salles de classe, on n'a pas des suppléants qui sont brevetés, parce que tous nos brevetés sont placés, ce qui est très bien, ça c'est un bon point, mais c'est certain que si on a besoin de quelqu'un à long terme, là on est un petit peu plus mal pris.
C'est surtout dans les 10 prochaines années que le manque d'enseignants va faire mal au district scolaire francophone du Nord-Ouest. On revient avec les propos du directeur général, M. Luc Caron.
Ce qui nous inquiète, c'est les années à venir. On a ressorti des statistiques, puis on a posé des questions à notre flotte enseignante présentement. Puis ça nous démontre que d'ici 10 ans, on va perdre plus de 200 enseignants certifiés dans notre système. Je ne sais pas si tu réalises, mais plus de 200 enseignants pour nous au Nord-Ouest, ça représente 43% à peu près de notre flotte enseignante va être partie à la retraite d'ici 10 ans. Donc, c'est là que tout de suite, nous, on a des inquiétudes à renouveler la flotte parce qu'on s'inquiète justement du nombre de jeunes qui vont rentrer versus du nombre d'enseignants qui vont partir à la retraite.
Le départ imminent de plusieurs enseignants vers la retraite n'épargnera pas l'école Marie-Gaétane à Kedgwick. C'est ce que Mme Hélène Savoie-Chouinard nous affirme.
Dans quelques années, moi, je te dirais, admettons comme un bon 7 ans, là, je vide la moitié de l'école. Fait qu'on se trouve à avoir quasiment 11 enseignants sur 28, admettons, qui pourraient être partis à la retraite.
Du côté de l'école polyvalente Alexandre J. Savoie à Saint-Quentin, les effets de la pénurie se font déjà sentir. La direction qui applique régulièrement les étapes proposées par le district scolaire en cas de manque d'enseignants. On écoute à ce sujet les propos du directeur de la PAJS, M. Jason Thibault.
Je dirais que cette année, on a été plus affecté par le manque d'enseignants que même par les deux dernières années, là, au niveau de la pandémie. Il y a un guide qui est sorti, justement, par le district, qui nous donne toutes les étapes à suivre advenant qu'on ait un manque d'enseignants. Fait qu'on suit ce processus-là. Fait qu'avant de fermer des classes, il y a bien des services qu'on peut couper, etc. Fait qu'on peut faire ces arrangements-là à l'interne, comme le district nous l'a monté. On va se dire, on a 18,5 enseignants là, à titre à l'école. Fait que quand tu enlèves les membres de la direction qui comptent là-dedans aussi, il nous en reste 16, plus ou moins 17. Puis l'année prochaine, il y en a deux qui quittent pour la retraite. Donc, ça fait quand même un gros pourcentage. Déjà, 2 sur 17 qui quittent à la retraite. Mais c'est sûr que dans 17-5 ans, on va avoir quelques enseignants qui vont quitter aussi.
Pour pallier au manque de main-d'œuvre, les districts scolaires devront miser sur le recrutement d'effectifs, un aspect difficile à réaliser pour les régions éloignées, comme le mentionne M. Le Caron.
Le recrutement est plus difficile dans notre district, dans deux régions particulièrement. Grand Sault et votre région qui est le Restigouche-Ouest. Évidemment, on est davantage agressif au niveau d'essayer de recruter des gens là, dans ces régions-là parce qu'on a besoin de renforts, évidemment. Puis on tente bel et bien de brasser toutes sortes d'initiatives avec la province, avec l'Université de Moncton, surtout, qui est notre institution postsecondaire là, qui nous fournit le plus de jeunes profs. Donc on tente des initiatives, comme exemple des baccalauréats médiatisés, pour offrir davantage de cours en ligne ou l'accès aux gens. On essaie justement disons, d'offrir des baccalauréats accélérés pour des gens qui ont des baccalauréats, exemple, dans une matière enseignante, comme un bac en sciences ou un bac, exemple, en histoire, ou peu importe. On a des incitatifs justement pour offrir des baccalauréats en éducation de façon accélérée. Ces gens-là pourraient faire un bac en éducation dans un an et demi. Donc, il y a plein de choses comme ça là, qu'on tente de faire pour encourager les gens à considérer l'éducation comme profession.
Des études universitaires moins longues pour l'obtention d'un baccalauréat en enseignement pour certains profils d'étudiants, c'est une solution. Par contre, dans les milieux ruraux comme le Restigouche-Ouest, un retour aux études pour les suppléants actuels qui ont une vie familiale bien établie ne se fait pas d'un claquement de doigts. C'est ce que souligne Mme Hélène Savoie-Chouinard.
Dans notre région, c'est difficile parce que c'est des petites mamans qui ont toutes des petits-enfants puis dire « je lâche ». Ma petite famille, puis je m'en vais, je retourne aux études, ou que je travaille dans le jour, puis je fais les études à la fin de semaine, bien, des petites familles, là, des petites mamans avec des familles, c'est pas facile de dire, je lâche tout ça, puis je m'en vais. Tu sais, on est quand même éloigné de tout, fait que ça fait quand même une différence. Puis ça, c'est une des choses que j'entends, parce que j'ai des super de bonnes suppléantes aussi, mais qui disent, pas sûr que je vais me rendre là, je pense que je vais continuer à faire de la suppléance au jour le jour.
Près du quart des enseignants diplômés quittent le domaine après les 5 premières années dans l'ensemble du pays. On a discuté avec un de ceux-là, diplômé de l'université en 2014, qui nous fait part d'une raison qui l'a amené à quitter le système d'éducation.
Moi, j'ai étudié en éducation physique, mais il n'y avait pas de disponibilité à ce moment-là pour travailler là-dedans. Fait que ce qu'on faisait, on faisait de la suppléance, mais on remplaçait ici et là. Fait que de temps en temps, on avait une couple de semaines qu'on remplaçait un certain enseignant ou whatever, mais rien spécifiquement dans le domaine qu'on avait étudié. Fait que c'est comme si que j'ai étudié 5 ans de temps pour un certain domaine, mais il n'y avait aucune ouverture. Fait que là, je m'amusais à remplir les trous, c'était là. J'ai venu éventuellement tanner avec ça, puis il n'y avait rien qui s'ouvrait, fait que c'est là que j'ai juste décidé de sortir de là. Parce que ça faisait quand même déjà au moins, je te dirais, 2 ans là, que je m'amusais à remplacer, c'était là. Mais là, t'as rien de stable, tu sais, veux pas, les billes, c'est les billes. Fait que c'était toujours genre, je vais-tu être appelé ou pas être appelé. Puis là, ce qui arrive, c'est que souvent, tu vas être appelé pour remplacer un enseignant, mais la seule affaire, c'est que ce domaine-là, tu le connais pas en tout. Mais là, faut t'en remplacer à une place que t'as pas étudié, que de un, ça te tente pas vraiment, mais c'est parce que t'as de quoi veiller.
La précarité, c'est un aspect auquel les nouveaux enseignants en général doivent composer pendant plusieurs années. Certains se découragent, d'autres persistent. Voici à ce sujet les propos d'une enseignante nouvellement diplômée.
Oui, mais ça fait partie de l'enseignement, puis il faut qu'on soit prêt à ça quand on commence, parce qu'on sait que peut-être pour les prochains 10 ans, je ne saurais pas ce que je suis l'année prochaine ou quel niveau que je vais enseigner, ça fait partie. Puis même si ça peut faire 20 ans que tu enseignes, puis que la directrice décide de te changer de niveau comme ça, il faut que tu recommences, puis c'est que ça, on n'a pas beaucoup de pouvoir dans ça, puis ça fait partie de ça.
On a discuté avec un enseignant retraité pour comparer brièvement les époques. Celui-ci s'est exercé dans la profession de 1981 à 2013 au niveau secondaire. Voici les propos de M. Corrad Gauvreau.
Les enseignants aujourd'hui ont beaucoup de tâches. Comparer ce que moi, quand j'ai commencé, là, c'est aujourd'hui, il faut être papa, maman, psychologue, docteur. On a beaucoup de tâches, plus que ce qu'on avait dans notre temps. C'est beaucoup demandant. Puis, si on regarde dans mon temps, on avait deux psychologues, on avait deux travailleurs sociaux, on avait du monde, on avait de l'effectif. Mais là, l'effectif, là, c'est tout l'enseignant qui est écope de ça.
Est-ce que ça a changé? Oui. Est-ce que les enseignants ont de la compétition? Oui. On a de la compétition avec les écrans. T'as les jeux vidéo, t'as tout ça qui embarque un monde qui est vraiment, c'est partout, ça saute de partout. Puis nous autres, on arrive, t'as l'enseignant qui... Puis des fois, on a besoin de faire de l'enseignement magistral. C'est un beau mélange. Moi, je me dis, si tu peux faire un mélange avec les technologies, avec l'enseignement, avec l'accompagnement, tu peux faire de quoi de bien avec ça. Mais c'est sûr qu'on est en compétition directe avec tout ce qui se passe au travers du monde, Internet et tout, là.
La directrice de l'école Marie-Gaétane, Mme Hélène Savoie-Chouinard, qui énumère des difficultés quotidiennes que vivent les enseignants et enseignantes. En plus d'assumer des tâches connexes et toutes sortes de branches professionnelles qui dépassent le rôle même d'un enseignant, tous les acteurs du milieu scolaire interviewés dans ce reportage soulèvent le défi qu'implique une telle profession.
C'est sûr que c'est pas une profession qui est si facile que ça, parce que c'est des heures. T'sais, on a bien beau dire, OK, oui, les élèves partent à 1h30 ou à 2h30 ou à 3h15. Mais c'est les heures de plus que tu fais. Je vais dire que c'est vraiment une vocation, parce que pour être enseignant, fais-moi pas croire que tu peux dire, OK, moi, je ferme tout ça, c'est fini. Oui, tu vas peut-être le faire, mais tu vas travailler chez vous le soir ou tu vas travailler la fin de semaine. C'est pas quelque chose que tu peux fermer la porte puis c'est fini, on n'en parle pas jusqu'au lendemain matin. T'as des parents qui vont t'appeler. Il y a tellement de choses qui nous arrivent que tu dis, c'est une job qui finit jamais. C'est pas tout le monde qui veut des jobs qui finissent jamais non plus.
Pour M. Corrad Gauvreau, enseignant retraité, l'heure est à la valorisation de la profession. On l'écoute à l'instant.
Il faut me dire comme Zachary Richard sur le déclin, l'émission a eu avec Anne-Marie Dussault qui avait dit « On attire les bons poissons avec les bons appâts. » Ça fait que ça, j'oublierai jamais cette petite phrase-là. J'aime ça, ces petites anecdotes-là. Puis je me dis, ben c'est la même chose aujourd'hui. Si on veut accueillir des nouveaux enseignants, les garder en place, il faut mettre ça à l'échec. Il faut mettre ça du bon bord, les bons services.
Pour ce qui est de la promotion du métier d'enseignant, tout ne dépend pas seulement des actions des districts scolaires. C'est ce que nous explique le directeur général du DSFNO, M. Luc Caron.
C'est vraiment un travail provincial. J'avoue qu'on essaie bel et bien là, de faire des choses au niveau local, mais c'est vraiment un travail qu'on tente de faire à ce niveau-là avec la province et aussi le syndicat, la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, qui doit aussi jouer un rôle important dans la valorisation justement de la profession à cet effet-là. Fait que c'est vraiment un travail concerté entre ces trois organismes-là là, tout de suite.
Le district scolaire francophone du Nord-Ouest devra certainement composer avec des suppléants non qualifiés pour pallier au manque de main-d'œuvre. M. Luc Caron confirme qu'une équipe est actuellement en place pour entourer et soutenir ces travailleurs.
Puis on a tout de suite des suppléants là, qui n'ont pas nécessairement la qualification. Puis je suis content d'avoir une équipe très, très solide pour une district. On appelle des mentors en pédagogie là, qui ont comme rôle justement d'accompagner ces gens-là dans la profession. C'est des gens qui sont sur le terrain, qui sont dans les écoles, qui ont comme mandat spécifique justement d'accompagner les enseignants novices, les enseignants qui manquent des outils au niveau de leur certification pour justement faciliter l'intégration puis assurer leur succès au niveau de leur fonction et dans notre organisation.
Bien que la vocation de l'enseignement comporte son lot de défis et que les conditions de travail en général devront être étudiées par les dirigeants, l'amour pour les élèves et la passion envers ce domaine sont primordiales pour une carrière stimulante et valorisante.
La relation avec les élèves, c'est ça, il n'y a jamais rien de pareil. Quand on arrive le matin, on est content de voir les élèves, ils sont contents de nous voir, puis tu peux les aider à cheminer, tu sais, pas juste académiquement, mais à leur devenir des meilleures personnes, émotionnellement, socialement, c'est... Il y a beaucoup de choses, c'est tellement vaste, c'est jamais de routine, ça j'adore. Ouais.
Moi, tu me demanderais c'est quoi j'aurais fait si j'aurais pas fait un enseignant, ben j'aurais fait un professeur. C'était ça, j'aimais les jeunes, puis j'ai resté avec les jeunes. La plus belle job que j'ai faite de ma vie, le plus beau travail, la plus belle profession, c'est d'être enseignant.
Cette semaine, d'ailleurs, plusieurs enseignants affichent un citron comme photo de profil pour faire allusion au slogan « Un coup pressé, il n'y a plus de jus ». Et là, on blâme le citron. Les enseignants du Nouveau-Brunswick lancent une campagne de mobilisation dans le but d'améliorer leurs conditions salariales et de travail. Les négociations ont assez duré, disent-ils. La Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, l'Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick et la New Brunswick Teachers Association font pression sur le gouvernement, nous apprend Sébastien Caron à Frédéric Ten, qui s'est lui aussi intéressé à ce sujet.
Bonjour, ici Julie Desalliers au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue.
On prend un peu de temps pour vous rappeler à quel point il fait bon fureter sur le site web de canada-info.ca. C'est le site des journalistes de l'Initiative de journalisme local qui travaillent dans nombre de provinces et territoires canadiens. Leur mandat est de produire pour vous et pour une foule de radios locales au pays des topos, des reportages traitant d'enjeux locaux et qui trouvent écho partout au pays. C'est le mandat d'ailleurs de l'émission Point de vue que vous écoutez. Alors vous donnez quelques exemples. Adèle Gros-Perrin à Halifax s'est entretenue avec l'auteur-compositrice Laura Ray. Daniel Aucoin nous parle des pêcheurs de crabes des neiges qui ont pris la mer à Chéticamp. Marie Hillès, qui est en Ontario, a rencontré le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe, qui avait promis lors de sa dernière campagne électorale de célébrer le fait français dans la région de la capitale nationale. Imelda Wafak nous parle rapidement des élections municipales qui se sont tenues dans la région de Rivière-la-Paix en Alberta et à quel point il est parfois difficile de recruter de nouveaux politiciens, politiciennes. Puis vous reproduisez donc cette recette une quarantaine de fois chaque semaine et vous avez le portrait complet, des centaines de reportages à chaque mois qui vous permettent de découvrir tous les petits coins du pays. Comme ici, avec notre nouvelle collaboratrice Imane Elhadji, qui est en poste au Manitoba et qui nous parle d'un grand sujet, celui de la survivance du fait français, pas seulement au Québec, mais partout au pays. C'est un des défis que s'est fixé d'ailleurs le gouvernement fédéral qui, avec une version revampée de sa loi sur les langues officielles, le projet de loi C-13, tente de mieux baliser le développement et le maintien du fait français au Canada, tant d'un point de vue démographique que dans l'espace public. Et la sénatrice canadienne Raymonde Gagné en a fait son combat, du moins à partir du siège qu'elle occupe actuellement à Ottawa, donc de sénatrice, mais aussi avant. Elle, qui est l'ancienne rectrice de l'Université de Saint-Boniface et experte dans le domaine de l'éducation, la sénatrice Raymonde Gagné dit comprendre l'importance qu'ont la langue et la culture sur la société et la diversité canadienne. Madame Gagné qui a lancé un appel en faveur de l'accueil d'un plus grand nombre d'immigrants francophones au pays. Au Canada, le vieillissement de la population ajouté au faible taux de natalité ainsi qu'au manque d'intérêt des jeunes pour l'apprentissage et la pratique du français contribue à fragiliser la francophonie canadienne aujourd'hui confrontée à un déclin très significatif. L'appel à l'action de la sénatrice Raymonde Gagné est un rappel important du rôle que jouent la langue et la culture. Le projet de loi C-13 sur les langues officielles doit d'ailleurs servir d'outil qui va permettre de baliser ce rôle. Notre journaliste Imane Elhadji en discute avec la sénatrice Raymonde Gagné, qui siège d'ailleurs au comité sénatorial sur les langues officielles et qui garde un œil donc sur les changements proposés à la loi C-13. La voici.
La promesse du gouvernement fédéral d'apporter des changements à la loi sur les langues officielles est la raison pour laquelle nous avons voulu creuser les changements qui sont proposés et qui sont présentement à l'étude à la Chambre des communes, notamment par l'entremise du projet de loi C-13, qui propose des modifications à la loi sur les langues officielles. Un des changements qui est proposé dans le projet de loi est l'adoption d'une politique en matière d'immigration. Étant donné qu'on avait déjà fait une étude préalable au sujet, justement, en la matière d'immigration par rapport au projet de loi C-13. On a voulu quand même porter un regard assez attentif sur ce sujet et puis de peut-être préparer le terrain pour l'élaboration de cette nouvelle politique lorsque le projet de loi sera adopté. Il y a aussi, je veux juste peut-être mentionner aussi que le ministre de l'Immigration, des réfugiés et de la citoyenneté a aussi été mandaté à mettre sur pied une stratégie nationale ambitieuse, puis je vais souligner ambitieuse, d'immigration francophone à travers le Canada. Et puis, avec la pandémie, certains rapports mettant en doute l'atteinte de la cible d'immigrants d'expression française que le gouvernement s'est fixé, nous avons aussi poussé à explorer la question.
Pouvez-vous brosser un portrait de la situation présente au Canada en matière d'immigration francophone?
Lorsqu'on regarde les statistiques par rapport à l'augmentation ou la diminution du poids démographique de la francophonie canadienne, on constate que ça continue de baisser. Alors, depuis 2001, le Manitoba est l'une des provinces qui ont connu les plus fortes baisses. Et pour moi, c'était extrêmement important de pouvoir creuser cela davantage. Ça, c'était malgré le fait qu'il y ait une cible provinciale en matière d'immigration francophone. Il y a aussi l'Ontario et le Nouveau-Brunswick qui sont toujours dans une pareille situation. Mm. Il y avait seulement que Yukon et le territoire du Nord-Ouest qui ont connu une légère augmentation de leur population d'expression française. Et puis, j'aimerais aussi ajouter que la cible fédérale visant est-ce que 4,4% des immigrants d'expression française s'établissent à l'extérieur du Québec d'ici 2023, mm-hmm. avait été fixée au milieu des années 2000 et elle n'a été atteinte qu'en 2022. Alors, c'est seulement que l'année dernière qu'on a réussi à atteindre la cible. Alors, on constatait qu'il y avait un réel problème.
Dans le rapport, 12 recommandations sont proposées pour empêcher le déclin de la francophonie au Canada. Pouvez-vous élaborer davantage?
Mais premièrement, les recommandations ont été élaborées sur la base des mémoires et des témoignages de plus d'une cinquantaine de témoins, d'intervenants de divers milieux, que ce soit du milieu, que ce soit au niveau du commissaire aux langues officielles, que ce soit au niveau des communautés provenant des différentes provinces. On a eu des intervenants du Manitoba, entre autres, des municipalités du Nord, en tout cas, de diverses régions. On a voulu demander, suite à toutes les audiences avec ces intervenants-là, on demande au gouvernement fédéral d'adopter sans tarder. Toujours sans tarder, on faut mettre toujours un peu de pression. On voudrait qu'ils adoptent une politique en matière d'immigration francophone qui soit globale, coordonnée, qu'elle soit ambitieuse, mais aussi adaptée aux besoins des communautés. Nous demandons aussi que cette nouvelle politique soit accompagnée d'actions concrètes, comme un financement accru pour les intervenants et aussi on souhaite une stratégie en matière d'immigration francophone qui est basée sur les meilleures pratiques. Je pense qu'il est important aussi de juste mentionner que le tout doit être fait en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, puis aussi en consultation avec les municipalités, les communautés francophones en situation minoritaire et aussi les ordres professionnels et les employeurs, parce qu'ils ont tous un rôle à jouer en matière d'immigration. Il faut que ça soit très bien coordonné. Je crois que la politique doit s'adresser à l'ensemble des partenaires qui touchent au parcours d'intégration francophone des immigrants. Il y a plusieurs joueurs. Elle doit contenir aussi des objectifs ambitieux et des responsabilités claires. Les gens doivent savoir quelles sont leurs responsabilités. La politique doit aussi fixer une nouvelle cible d'immigrants d'expression française qui s'établissent à l'extérieur du Québec. Puis, les intervenants nous ont dit qu'elle doit être croissante et adaptée aux réalités régionales et fondée sur des données probantes. Alors, pour les immigrants, des nouveaux arrivants qui nous arrivent ici au Manitoba, l'approche est très différente des immigrants qui pourraient choisir le Yukon, par exemple, ou même le Nouveau-Brunswick. Alors, elle doit être certainement adaptée aux différentes provinces, aux différentes réalités des régions et des communautés, soit dans des plus grands centres urbains ou encore là, dans des communautés rurales. La politique aussi est vraiment importante. Ça se retrouve aussi dans le projet de loi C-13. Mais la politique doit absolument miser sur le caractère réparateur des droits linguistiques et aussi le rétablissement du poids démographique des minorités francophones. Parce qu'on perd justement le pourcentage de francophones diminue sans cesse. Alors, je pense que ça met en évidence la fragilité de la langue française ici au Canada. Alors, je pense que c'est vraiment important de souligner ça.
Et une dernière question, si vous voulez bien. Quelles sont les prochaines étapes du comité en lien avec cette question?
Bien, je vais vous dire tout franchement que moi et les autres membres du comité attendent avec impatience que le projet de loi C-13 lui soit renvoyé et espèrent que celui-ci contribuera à l'atteinte des objectifs en matière d'immigration francophone. Alors, le travail est entamé, mais disons que l'adoption du projet de loi C-13 va venir, concrétiser tout ça et ils vont pouvoir passer à l'action. Je peux vous garantir que le comité va surveiller les progrès accomplis et restera à l'écoute de tous les défis que le ministère et les autres intervenants auront à relever en vue d'assurer, je crois, le maintien d'une francophonie canadienne qui est forte, qui est diversifiée, mais aussi qui est vibrante. Je pense qu'il faut absolument qu'on aille de l'avant parce que c'est préoccupant de voir, de constater justement cette baisse, ce déclin de la francophonie au Canada. Alors, les prochaines étapes, c'est à nous de surveiller aussi, inviter les différents intervenants, y inclus le ministère, à témoigner encore une fois au comité pour évaluer les progrès.
Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Je suis honorée de vous avoir parlé. Et je vous remercie encore une fois pour l'opportunité et pour le temps précieux que vous m'avez accordé aujourd'hui.
Ça m'a fait plaisir et puis je suis toujours heureuse de pouvoir, discuter avec vous, mais aussi de pouvoir mettre en évidence le travail qui se fait au Sénat du Canada. Alors, je vous remercie infiniment de m'avoir invitée.
Voilà, c'est déjà tout pour nous cette semaine. Merci à nos collaborateurs, Tris, Maxime Gauthier, Imane Elagi et Sébastien Caron. On ne l'a pas entendu, mais il a contribué. Coordonnateur national Stéphane Bénard, ici Boris Chassagne, à l'animation et à la réalisation. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa, avec la précieuse collaboration de votre radio locale. Merci d'avoir été là. Restez à l'écoute de l'émission qui suit. À la semaine prochaine.
Canada LJ. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.